tu me demandes de te parler de l'humilité. C'est un vêtement réversible dont il importe de distinguer l'endroit de l'envers. D'un côté, elle joue la timidité, la gêne, la puissance. Sa main invisible est tendue vers la pitié. Elle réclame indirectement la prise en charge, se croyant dans des conditions d'infériorité et de soumission. Elle s'excuse sans raison et s'impose honte et culpabilité. L'humilité véritable ne s'efface pas dans l'ombre de l'ego, mais n'avance pas non plus campée sur des échasses en besoin d'applaudissements. Elle est simple, s'affirme sans attaquer ou se défendre, et souvent se tait si cette attitude lui semble plus favorable. Elle ne se soustrait à aucune question et affirme simplement ce qu'elle croit juste. Son regard franc ne fuit ni ne provoque, car elle est mue par la compassion. Être la première ou la dernière est sans importance pour elle, puisque déjà, elle perçoit tous ses frères également accomplis au terme de l'aventure. Souviens-toi que l'humilité joue et rit comme un enfant, s'affirme parfois avec fermeté ou se tait comme un sage, mais elle ne connaît jamais le mensonge. Appelle à toi cette valeur. Si elle n'avait pas commencé à prendre racine, dis-moi, d'où te serait venue cette question? Souviens-toi que la peur, comme la fausse humilité, est une doublure fictive. Méfie-toi de ce venin bavé par le serpent et qui te garde dans un futur imaginaire. La peur remplit la maison de fantômes de paille. Elle fracasse ta confiance, détruit ta certitude et freine l'action juste. Elle ralentit le pas, brouille la pensée et crée une fumée si dense qu'elle propose l'envers de ce qui est recherché. De quoi pourrais-tu possiblement avoir peur puisque tu m'as présenté un double de tes clés? La communion de notre amour fera fondre les écailles qui recouvrent ton œil et tu seras délivré de ces fausses visions. Avance dans la certitude que l'erreur n'existe pas et que tout sert à ton avancement. Repose-toi en moi comme je me repose en toi et ton regard deviendra pure vérité. Qu'on te fasse des allusions discrètes, te jugeant naïve ou innocente, qu'on estime ton parcours comme la voie des idiots, qu'importe, ne doute surtout pas. Entre la flèche et la cible, il y a la toute-puissance de notre union. Quand je t'ai dit « viens d'abord seul », cela voulait signifier que seul tu dois signer ton contrat d'allégeance pour qu'ensuite nous soyons 2, 10, 1000 et des milliards de participants à célébrer la sortie de ce monde de l'illusion pour l'entrée dans le Christ collectif. Tu me demandes s'il y a d'autres univers que le tien qui existent. Je ne te parlerai pas d'univers. Je préfère te parler d'un état si parfaitement unifié qu'il ne peut plus être soumis aux lois de l'illusion. Un état qui ne nécessite aucune forme parce qu'il est trop vaste et puissant pour être contenu. Un état libre de toute limite, de tout concept, de toute contrainte et totalement inaccessible à quelque définition que ce soit. Définis-moi, soit le son, le souffle ou la lumière. Impossible. Alors comprends-tu? Abandonne l'inutile inquiétude et glisse sans retenue dans l'océan sans borne de mon amour et chante la plénitude de ton être en mutation. Bien au-delà de tes peurs, de tes doutes, de tes absences de certitude, bien plus loin que les rives de tes faux rêves, je suis un avec toi dans l'indéfinissable et le sans fin. Même si tu as l'air d'être dans ton monde, déjà, le flot de ma tendresse déborde les rives de ton apparente impuissance et je sais que déjà ton pied touche la rive nouvelle où nous nous fondrons à jamais l'un dans l'autre. En attendant toutes les signatures, abrite-toi à l'ombre de mon entendement, là où je me porte garant du passage. Je te parlerai de la mort et de la fausse croyance d'un monde à sauver. Pourquoi dois-je m'attarder sur les rebords de ces plateaux aussi sombres et désuets, me dis-tu? À cela aussi je répondrai et te rappellerai l'histoire de l'enfant au flutio.
Un jour, Dieu convoqua son adjoint, l'esprit. Mon fils est parti depuis trop longtemps au pays du désordre, dit-il. Je te prie de te rendre auprès de lui et de le rappeler à ma mémoire. L'esprit, porteur de son, de souffle et de lumière, se déguisa en enfant et, prestement, se rendit au pays du rêve. Ce qu'il aperçut était renversant. Là, sur une étendue incroyable, des milliers et des milliers de momies, toutes semblables, toutes enveloppées dans des sueurs identiques. Elles étaient rangées là, par terre, côte à côte, sans mouvement et sans vie apparente. L'esprit sortit son flutio et se mit à jouer patiemment. Un vieil homme, ayant éprouvé la joie de l'éveil, s'était retiré dans la montagne en attente de ses frères. Il reconnut la résonance de l'unité et se hâta en direction du souffle. Il aperçut l'enfant dont il se souvint de la fidélité. « Tu penses pouvoir les réanimer ?» dit-il. « Je cherche plutôt à les tirer hors du temps, là où la souffrance et le sommeil sont inutiles, car ils sont prisonniers d'un linceul de rêve. L'amour pense que le cauchemar a suffisamment duré, et il me somme de lancer l'appel. » Alors qu'il parlait encore, une première momie se mit à donner des signes de renaissance. Le mouvement était enclenché. Emportée dans une vague d'onde puissante, elles se fondaient les unes dans les autres à la recherche d'une unique identification. Et la légende dit que depuis ce temps, l'appel s'accentue pour que le réveil s'accélère.
La mort, c'est précisément cet état momifié dont il est question ici. Elle n'a rien à voir avec la dissolution du corps physique. Le corps est une figure dans le rêve, un linceul recouvrant une surface d'ego et une possible prise de contact avec l'esprit, ainsi que nous en avons déjà parlé. La mort, tu peux la voir comme un monstre au visage recouvert. Il t'arrache la vie et brise par le fait même tous tes contacts aux personnes aimées. Il extermine tous tes rêves, tout ton espoir de goûter encore et encore à tes fausses perspectives. Il te plonge dans l'obscurité de l'incertitude, te retourne au perpétuel manège de l'ignorance pour te ramener sans cesse sur le plateau du grand cirque. Il crée chez tes proches la tristesse d'avoir perdu une connaissance, la culpabilité concernant certaines paroles ou attitudes regrettables du passé et un vide difficile à combler parce que régi par la peur. Pourtant, si nous revenons à l'esprit divin, à l'adjoint chargé de l'éveil, tu peux maintenant voir la mort bien autrement. Ce collaborateur n'a qu'une seule fonction, rétablir la vérité. Et la vérité sait que la mort n'existe pas, pas plus que la souffrance, que la colère, que la haine, que la peur, que le mépris, et ajoute ce que tu veux. Tous ces attributs sont les arguments de l'ego pour obscurcir la mémoire de ton absolue perfection. Et le retour progressif de cette mémoire, c'est cela, l'éveil. Cet éveil nécessitait pourtant un précurseur. L'as-tu reconnu en la personne de ce vieil homme de la montagne qui en éprouve la plénitude depuis si longtemps? Si tu le fréquentes assidûment, il t'assistera dans le recouvrement de ta lointaine mémoire. Mémoire de créateur, fils de créateur. Cesse de te cramponner à ton sommeil. La mort est aussi inexistante que le rêve, là où l'homme est un véritable cadavre allaité par l'ombre de l'ego. À chaque instant, en toutes occasions, discerne ma présence et remets à l'adjoint la totalité des contre-vérités et des ruses perfides de cet ego. Je te le dis, mille fois je te le redirai, tu as deux choix, le fou délirant ou le maître de l'éveil définitif. Tiens-toi le pourdit. Je peux te seconder. Faire à ta place, jamais. Quand tu seras devenue totalement vigilante, il s'établira